France Inter. Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end.
Alors certes, la fête de la musique, ce sera demain, mais c'est dès ce matin sur France Inter avec notre invité. Bonjour André Manoukian.
Bonjour Éric.
On est ravis de vous recevoir. La musique, vous la couchez sur le papier avec ce livre sur les routes de la musique. On va y revenir dans un instant. Vous en parlez aussi à la radio. Vous en parlerez cet été tous les matins vers 9h-5. On va commencer par vous écouter au piano en duo avec Elodie Frégé, au chant, extrait de votre dernier album Hommage à Gainsbourg et aux voix féminine.
Ce mortel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Ce mortel ennui qui me tient. Oui, je crois que je pourrais voir ce mortel ennui se tailler à l'anglaise loin de moi. Bien sûr, il n'est rien besoin de dire à l'horizontale. Faudra bien que je me décide un jour, mon amour, à me faire la malle. Mais j'ai peur que tu n'ailles dans la salle de bain, tendre la main vers le cardinal. Comme je veux pas d'ennui avec ma conscience et ton père. Je me laisse faire, je me laisse faire, je me laisse faire.
Jusqu'à la dernière note, la reprise du morceau de Gainsbourg, ce mortel ennui, Elodie Frégé au chant. Et vous, André Manoukian, au piano. Alors je le disais, vous serez cet été dans la matinale de France Inter, 8h55, avec une quarantaine de chroniques tirées de ce livre intitulé « Sur les routes de la musique ». C'est une coédition HarperCollins et France Inter. Un mot d'abord sur la fête de la musique. Demain, les bars et les restaurants seront autorisés à donner un bout de terrasse, un bout de trottoir à des musiciens amateurs. Faut rappeler peut-être comment c'est important pour des musiciens en herbe, confirmé, de pouvoir jouer comme ça, spontanément.
C'est ce moment que beaucoup attendent, parce que moi je me souviens des premières fêtes de la musique qui étaient comme un événement et qui étaient une vraie fête populaire. Ça me faisait presque penser à la fête des fous au Moyen-Âge, parce que tout le monde sortait ses trucs. Et puis après, au niveau de ce qui se passait musicalement, il y avait à boire et à manger, mais c'était magnifique de voir cet engouement populaire. Moi, je suis à fond pour... vous savez, la France est quand même le pays où, en Europe, on apprend le moins des instruments de musique. Quoi. Au dernier sondage, c'est 7% de la population, alors qu'en Allemagne, en Angleterre, c'est 15%. Donc voilà, tout ce qui est fait pour que les gens aient accès à la musique. Moi, évidemment que je suis à fond
pour... On peut pas être triste, non? Quand on joue, quand on entend de la musique.
Eh ben non, on peut pas être triste. Et puis en plus de ça, ça participe à... C'est une banalité effrayante, ce que je veux dire, mais la musique, elle ne fait que rassembler. Je dirais que c'est la dernière religion, au sens étymologique du terme, religere, ce qui relie les gens, quoi. Vous avez toute une foule qui est sur le même tempo, qui bat comme un seul homme sur un seul corps.
Quoi. Vous dites qu'on apprend peu ou pas la musique à l'école. Est-ce que ça fait des Français un peuple de sous-doués dans ce domaine?
Pas un peuple de sous-doués, mais on a l'impression que c'est moins important qu'ailleurs, parce qu'on est beaucoup dans l'expression. Quand j'étais en Angleterre dans un studio, tout d'un coup, je vois la secrétaire du studio qui descend et qui dit à son patron, à 18h, je m'en vais, I need to dance.
Et puis, un besoin de danser.
Mais oui. Et puis, c'était normal. Nous, comme on s'exprime et qu'on est moins, je dirais, peut-être coincé, on a peut-être un tout petit peu moins de musique que les autres.
Pour vous, le jazz au piano, ça a commencé dans les cabarets, les piano-bars, parallèlement aux grandes écoles américaines que vous avez faites. Les petites boîtes de jazz, les cabarets, c'est une autre forme d'école aussi. On y apprend quoi ?
On y apprend surtout à écouter les autres. Moi, quand j'étais petit, j'allais au Hot Club à Lyon et dès que je voyais un pianiste, je me précipitais sur lui. Je disais, comment on fait pour improviser? Parce que à l'époque, on n'apprenait pas. C'est pour ça qu'après, j'étais obligé d'aller aux États-Unis. Il y en avait des sympas qui venaient chez moi, qui essayaient, mais ils n'avaient pas la méthode. Et jusqu'au jour, il y en a un qui m'a dit, bois du whisky. Je dis, bon, allez, c'est un peu léger, c'était 11h du matin.
Est-ce que vous seriez gentil de ne pas brancher Eric Delvaux sur l'improvisation?
Pourquoi? Il y a un grand débat sur l'improvisation. Est-ce que l'on improvise vraiment lorsqu'on fait soi-disant l'improvisation, ou est-ce que l'on ne fait que reproduire schémas musicaux finalement appris?
Alors, on agence des patterns. Donc, on a analysé le cerveau d'un pianiste qui joue Chopin par cœur, et le pianiste d'un gars qui improvise. Celui qui joue Chopin par cœur, ça fait appel à la lecture. Celui qui improvise, c'est le lobe.
C'est pas les mêmes zones du cerveau.
C'est la zone des mathématiques et de la représentation en 3D. On est toujours obligé d'avoir une longueur d'avance quand on improvise.
C'est d'ailleurs ce que dit dans le film d'Alain Corneau, vous le rappelez dans votre livre, hein, Tous les matins du monde, le maître de la viole de gambe qui est interprété par Marielle, qui demande à son élève Guillaume Depardieu, non pas de jouer, mais d'improviser. On juge la valeur d'un musicien à son improvisation.
Exactement, puisqu'il s'exprime. Jouer la musique des autres, bon, ben, c'est donné un petit peu à tout le monde. C'est très difficile de s'inscrire dans une interprétation. Évidemment, on a des interprètes de génie et on peut juger des subtilités. Mais par contre, s'exprimer soi, et par rapport à l'improvisation, tous les musiciens dits classiques étaient des improvisateurs jusqu'à la fin du 19e siècle. On a cessé d'apprendre l'improvisation dans les écoles de musique de la même manière que dans les écoles, on a cessé d'apprendre la rhétorique, c'est-à-dire l'art de s'exprimer. Il y a comme une volonté de dire au peuple, taisez-vous maintenant, il y a les sachants qui vont parler.
On joue d'oreille ?
Évidemment, mais la musique, c'est quand même l'organe de l'oreille par excellence. Et
Non, ça veut dire qu'il faut oublier le reste.
Ça veut dire que je ne suis pas contre le solfège. Au contraire, lire la musique des anciens, c'est formidable. Mais prendre la musique des anciens et essayer de l'adapter, de l'amener plus loin et de jouer avec. Moi, parfois, je prends mes partoches de Beethoven de quand j'étais môme et j'analyse comment c'est fait, puis j'essaye de le reproduire dans d'autres tonalités. Il faut pas oublier le terme jouer de la musique. Il y a quelque chose de ludique là-dedans et qu'on parfois perd dans les enseignements dits traditionnels. Le petit Mozart composait à l'âge de 3 ans. Mon œil, le petit Mozart était derrière son clavecin, il cherchait des trucs et c'est son père qui notait ce qu'il faisait. On s'est trop attaché à la lecture. Moi j'ai envie de redonner, dire aux gens, redécouvrez vos organes, vos oreilles.
Et pour que chacun puisse développer ses organes, ses oreilles et développer sa culture musicale, vous publiez ce livre sur les routes de la musique. Alors on y croise Pythagore, et en fait Osiris au départ, Platon, Apollon, Dionysos, Bach, Beethoven, Quincy Jones et Nadia Bélanger. Je voudrais qu'on s'arrête sur elle, Nadia Bélanger.
Nadia Boulanger,
évidemment, et sa sœur Nadia Boulanger. Il faudrait peut-être rappeler aux plus jeunes qui était Nadia Boulanger et pourquoi les musiciens du monde entier venaient voir ce professeur.
Je crois que c'était la plus formidable prof de musique au monde. Elle était l'élève de Fauré. Et à l'âge, dans les années 20, elle se rend compte qu'elle n'est pas faite pour être compositrice, donc elle va être prof. Et il y a un conservatoire après la Première Guerre mondiale américain qui s'installe à Fontainebleau. C'est important de le dire parce que tout d'un coup, on n'est plus dans quelque chose d'institutionnel, ce qui fait qu'elle a une classe extrêmement ouverte et tout le monde va passer chez elle. De Stravinsky,
Quincy Jones,
Michel Legrand, Leonard Bernstein, vous imaginez une classe et on peut aller sur Internet la voir un petit peu et elle est d'une passion incroyable et elle conseille les compositeurs en leur disant peut-être pas cette note, celle-ci, et elle va rassembler toute la musique du XXe siècle.
Vous dites qu'elle n'a pas pu être compositrice, mais il n'y a pas une sacralisation aussi peut-être exagérée, en tout cas en France, du compositeur?
C'était le débat avec Eric. À partir du moment où on improvise, finalement, on est compositeur de son impro. Donc plus on improvise et plus on va être compositeur, et plus on a cessé d'apprendre l'improvisation, plus on a tendance à sacraliser les compositeurs. En tout cas, elle était complètement ouverte et sur toutes les musiques. Et surtout, il y avait quelque chose d'iconoclaste dans sa manière d'enseigner. Et moi, c'est ça qui me plaît chez elle.
Pour revenir sur Nadia Boulanger, tu te rends compte, disait-elle à Quincy Jones, il n'y a que 12 notes pour avoir créé toute cette musique du monde. 12 notes, alors c'est un peu faux parce qu'il y a 12 notes, mais enfin il y a quand même beaucoup plus d'accords. Mais 12 notes au départ.
12 notes, ouais, le chromatisme et même moins que ça, puisqu'il y a 7 notes dans une gamme, dans notre système tonal, et il y a encore tellement de mélodies à écrire. Et Quincy Jones était venu la voir. Pourquoi? Parce que dans son pays, il n'avait pas le droit d'écrire pour les violons, parce que les violons étaient réservés aux blancs. On est dans les années 50. C'était l'arrangeur de Frank Sinatra, c'était l'arrangeur de Quincy Jones, de Michael Jackson, bien sûr, bien plus tard, mais c'était aussi l'arrangeur de Count Basie. Bref, il était déjà arrivé, mais il n'avait pas le droit d'écrire pour des violons. Donc il est venu en France. C'est Barclay qui lui a fait faire son premier disque avec des cordes pour Henri Salvador.
La musique, c'est quoi, André Manoukian? Des mathématiques et de la chair de poule?
Les mathématiques, de l'éros et de la spiritualité. C'est le paradoxe total. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est sa structure, c'est la structure du son, mais c'est vraiment de la spiritualité et de l'éros. Et c'est pour ça que il y a une espèce de guerre sans arrêt. C'est les religieux qui ont inventé la gamme en disant on va essayer de canaliser ce bordel parce que ça nous met dans des états pas possibles.
On dit pas bordel.
Sur la création de la gamme et à propos de mathématiques, donc on attribue à Pythagore la création de cette gamme de musique, c'était 500 ans avant Jésus-Christ. Vous rendez à Osiris dans le bouquin ce qui appartient à Osiris, hein, l'Égyptien.
Mais oui, les Grecs, ils ont tout piqué aux Égyptiens. On dit chez nous, la pensée est née au 6e siècle avant Jésus-Christ, avec les philosophes grecs, les présocratiques. Mais mon œil, ils allaient tous en Orient, et la civilisation égyptienne, elle avait 3000 ans déjà.
Le jazz, bon, vous l'avez après, on sait ce qu'il en a été de votre carrière, mais vous l'avez finalement, il vous a rattrapé en tout cas. C'est peut-être lui qui vous a choisi, qui vous a mis le grappin dessus. Vous étiez jeune, hein, vous aviez 14-15 ans, hein, c'est ça,
ouais.
Vous étiez ado. Et en même temps, il y a comme une boucle assez logique, c'est-à-dire le jazz et la musique de l'exil qui vous a ramené à un moment donné à votre musique originelle.
À la musique de mes ancêtres, à la musique arménienne, exactement. C'est-à-dire qu'en Orient, on n'a jamais cessé d'improviser. Et en Orient, on joue avec, je dirais, d'autres inflexions. Des inflexions que Platon détestait. Il disait, je déteste les inflexions trop orientales dans cette musique-là qui ramollissent les hommes. Et ben, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années. C'est ce qui m'a permis de me mettre en cure de désintoxication vocale. J'en avais marre de tomber amoureux des chanteuses. Et je me suis dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter avec cette musique.
À propos des 12 notes et de la musique orientale d'ailleurs, la trompette du grand-père de Ibrahim Maalouf, elle avait non pas, alors je ne vais pas m'y connaître, quart de ton, mais encore un quart de ton, ou c'est exactement. Donc des notes qui n'existent pas
chez nous. Voilà, nous on s'arrête aux demi-tons, eux ils ont les quarts de ton, et encore les quarts de ton égyptiens et syriens sont pas complètement pareils, il y en a qui sont des vrais neuvièmes de ton, mais tout ça pour dire qu'il y a des libertés. Ça, là on va toucher l'envoûtement et on va toucher la transe, et là faut pas me lancer là-dessus.
On va y aller un petit peu parce qu'on parlait des gammes musicales d'Osiris et de Pythagore. Vous précisez dans votre livre qu'il y a d'autres formes de gamme, par exemple le raga. Alors c'est une gamme qui correspond à un climat émotionnel. Il faut quand même expliquer ça.
Alors ça c'est en Inde. Alors déjà chez nous en Occident, nous avons deux gammes pour exprimer nos sentiments. Le mode majeur, le mode mineur. En gros, la gaieté et la tristesse. Dans le Moyen-Orient, vous en avez 50. Ça s'appelle des makams. 50 manières de dire je t'aime. 50 nuances de grec, comme disait Jules. En Inde, vous en avez 1000. Ce sont 1000 petites phrases que vous apprenez et que vous mettez bout à bout pour vous exprimer. C'est comme quand on apprend, c'est comme si on apprenait finalement. Alors que nous, on est dans un alphabet A, B, C, D. Eux sont dans des petits mots, dans des petites tournures. Ce qui fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui se passe. Après, ça produit pas le même genre de musique.
Anna Sigalevitch, ce sera dans un petit quart d'heure, votre chronique. Bonjour. Le moment classique. Bonjour, oui. Anna. Vous allez nous parler de Mozart ce matin. Vous avez jeté un œil sur le bouquin d'André Manoukian.
Oui, oui, mais moi, ce que je trouve très rare et précieux avec vous, c'est que vous avez une approche qui est un peu, comment dirais-je, holistique, en fait, de la musique. C'est-à-dire que vous refusez de cloisonner et de découper les genres, et la musique, les musiques forment absolument un tout.
Bah oui, c'est comme, enfin, on a une approche analytique et c'est moi qui ai été obligé de mettre tout ça bout à bout, de me dire, mais au fond, c'est la même chose. J'ai commencé par la musique classique quand j'avais 6 ans. Quand j'ai rencontré le jazz tout à l'heure, parce qu'elle disait à 14 ans, c'était fulgurant pour moi parce que j'avais jamais écouté cette musique. Mon père écoutait Beethoven et maman Schella et tout d'un coup, j'écoute Fats Waller et je dis, merde, ça, c'est Bach avec du rythme, quoi. Donc, pour moi, c'est une continuité. Le jazz, c'est quoi? C'est Debussy, Ravel, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement de la musique harmonique occidentale et en passant par l'Afrique. J'ai eu la chance de faire des documentaires avec Tété qui s'appelait Tété ou Dédé sur France 5. Et c'est là que je me suis rendu compte dans des pays, notamment en Éthiopie par exemple. Quand j'écoutais une musique, je disais, mais on est en Afrique, mais ça sonne pas africain. J'entendais l'Inde et la Chine. Et je me suis aperçu qu'autrefois le royaume d'Éthiopie allait jusqu'au Yémen et que là il y avait des caravanes qui partaient. La musique est un formidable marqueur pour raconter l'histoire des hommes. Et elle raconte l'histoire des hommes en temps de paix. Et c'est ça qui est beau.
Et vous rendez aussi des compositeurs du passé très vivants, c'est-à-dire par exemple la façon dont vous parlez de Bach, des battles, de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi. Enfin, il y avait quelque chose, il y a vraiment de chair, de vivant, de compétitif entre eux. Enfin, vous en parlez un peu comme des rockstars, quoi.
Ben, c'était des rockstars à l'époque, et puis on les a un peu formalisés à la fin du 19e, mais c'était des gens plus que vivants et qui faisaient des concours d'impro. Quand Beethoven apprend qu'il est sourd, son premier truc c'est merde, je pourrais plus faire de battle. Parce que c'était ça qui gagnait beaucoup d'argent.
Vie, ouais,
exactement.
Bach, qui est mort 6 ans avant la naissance de Mozart, les deux hommes n'ont donc pas pu se rencontrer. C'est à peine si Mozart a pu écouter la musique de Bach. Et ça, vous le rappelez dans votre livre. J'avais complètement omis cet aspect des choses. À l'époque, on ne jouait pas la musique des morts.
Exactement. Et un compositeur était oublié dès qu'il est. Et en plus de ça, Bach a été tué par ses enfants qui ont laissé tomber la fugue parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et un jour, il y a un riche viennois qui ramène des partitions de Berlin. Et il fait jouer Bach devant Mozart. Et Mozart écrit à sa sœur : j'ai écouté la musique du père de Bach, parce que Mozart était copain avec Jean Chrétien, le fils.
Ouais.
Et là, il tombe, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était incroyable pour lui. Il se met à écrire des fugues, et quand on écoute les fugues de Mozart, elles sont ridicules. Il n'y arrive pas. C'est ça qui est génial, quoi. Il y a comme une espèce de rupture, et il faudra attendre Mendelssohn près de 100 ans plus tard pour. Et du coup, c'est pour ça qu'on va appeler nos écoles de musique des conservatoires. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un patrimoine derrière. Et c'est pour ça aussi qu'on va cesser d'en prendre l'improvisation. On va dire aux musiciens, écoutez, on a un patrimoine formidable, on va aller le chercher et vous allez l'interpréter, ça sert à plus rien que vous improvisiez. Et au passage, toutes les partitions qu'on va aller chercher, qui sont écrites avec des prénoms féminins, on vire le prénom féminin en disant non, mais c'est pas possible. Il y a une espèce de réécriture incroyable.
Ah bah, l'historiographie a totalement évacué.
Exactement, les femmes, alors qu'il y en avait presque autant que des garçons, quoi.
Vous le disiez, des claques dans la figure en écoutant Stravinsky, Beethoven. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de la musique classique quand vous jouez du jazz? C'est la matrice?
Mais tout, c'est la matrice. Il n'y a pas un moment sans que je prenez une partition de Bach, prenez deux mesures de Bach et regardez, toutes les interdictions sont là, quoi. Des 9e, diminuent, on n'a pas le droit de les faire, la 9e Do et Do dièse à l'octave. Pourtant, il le fait avec du retard. C'est, je dirais qu'il y a encore tout à faire avec, quoi. Et moi, ce que j'adore, encore une fois, c'est les transposer, c'est prendre des traits d'eux. Vous avez des Cubains qui s'amusent avec Beethoven, mais c'est formidable, quoi.
On parlait de mathématiciens tout à l'heure, bien avec Pythagore, mais bien plus près de nous, il y a un autre mathématicien dans les années 80, vous en parlez dans votre livre, Igor Reznikov, musicien également. Alors son truc à lui, c'était d'aller dans les grottes pour écouter comment ça résonnait au temps des Homo sapiens. Avec quel objectif ?
Ah ben, alors d'abord, c'est un chanteur, donc qui est d'origine russe, c'est un mathématicien, mais il chante, il a une voix de stentor formidable, et chaque fois qu'il chante dans une église, il commence à regarder, parfois il s'emmerdait un petit peu, donc il regarde et il s'aperçoit que les églises romanes, par exemple, sont travaillées acoustiquement, il y a des pièges de basse et tout ça. Donc il est passionné, ça devient une marotte pour lui, il l'a raconté même, je crois, sur notre antenne, et du coup, dès qu'il arrive dans un endroit, il l'éprouve au niveau vocal et acoustique. Un jour, il a un ami qui lui fait visiter une grotte en Ariège, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à chanter, et à l'éprouver, et il s'aperçoit qu'en fait, les salles qui résonnent sont celles où il y a des peintures rupestres. Et quand une salle ne résonne pas, il n'y a aucune peinture. Donc il commence à se dire, il y a peut-être un lien, il voit un boyau avec un petit trait rouge, un petit point rouge tous les 2 mètres. Il demande à quoi ça sert, ils ne savent pas. Il va pour chanter sur un point rouge, et il s'aperçoit que le son rebondit. Les hommes préhistoriques avaient une conscience du son, et c'est complètement normal, puisque c'était par le son que le danger arrivait, donc ils avaient eux les oreilles grandes ouvertes.
Le son qui vibre, vous le retrouverez dans ce livre, donc le livre d'André Manoukian, ça s'appelle Sur les routes de la musique. C'est une coédition HarperCollins et France Inter, et ces chapitres,
bien.
On va les retrouver, on va les écouter aussi sous cet été, à partir de 9h-5.
Et il y a votre festival à Chamonix à partir du 23 juillet.
Voilà, dernière semaine de juillet, le Cosmo Jazz va avoir lieu et on va se régaler à écouter notamment Brad Meldo avec le piano qu'on fait monter par hélicoptère.
Eh ben, rien que ça. Et puis on ira vous écouter aussi à l'Olympia, je crois que c'est en juin 2022, on en reparlera. Merci beaucoup André Manoukian d'être venu nous voir ce matin, et bonne journée.